18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Le plaisir de vous retrouver, chers amis auditeurs. Bonsoir et bienvenue. Merci de vous nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux partout en France et on peut que s'en réjouir. En tout cas, c'est parti, vous le savez, au sommaire de cette émission. Eh bien, qu'est-ce qui vous attend au menu? Qu'est-ce qu'on vous a bien concocté en ce mercredi? Allez, d'abord, au sommaire, on va parler d'RT France. Vous savez, la chaîne russe, donc en France, implantée. La voix, il n'y a plus de voix. Plus de voix, hein. Donc plus de voix. Elle s'est éteinte, la télévision. Donc pour évidemment en parler, nous serons dans une poignée de secondes avec Jérôme Bonnet, qui sera avec nous, c'est le rédacteur en chef, le patron donc de la rédaction d'RT France, qui viendra nous expliquer, nous éclairer évidemment de ce qui se déroule dans les coulisses d'RT France, la chaîne évidemment qui s'est vue évidemment, bien sûr, il faut le dire, le bec est fermé, clochette. Aïe 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 aïe. Certains diront mais bon, on peut parler de deux poids, deux mesures, quand on parle de liberté d'expression, bref, toutes les interrogations possibles. Oui, mais que voulez-vous? La réforme des retraites, chers amis auditeurs, c'est aussi une question que je vous poserai tout à l'heure. Au 01-53-48-3000, on parlera aussi du Parti Socialiste. Le Parti Socialiste, l'île s'effondre dans une véritable crise. Est-ce que vous partagez évidemment cette analyse? 01-53-48-3000 à partir de 18h20 précisément. 18h50. C'est le professeur, le docteur, avec le Quad Neuf qui viendra nous livrer son point de vue sur la réforme des retraites. Oui, c'est beaucoup de réformes de retraites. Et puis, les débatteurs influenceurs tout à l'heure, ils viendront confronter leur point de vue et bien sur les sujets qui auront retenu notre attention aujourd'hui. On parlera de la réforme des retraites, la rue ou l'exécutif. Le bras de fer, on l'aura compris. Ça y est, il s'est installé. Qui va gagner la première manche? Clochette! Moi, j'ai plutôt le sentiment que c'est la rue là, qui s'est emparée, évidemment, du pouvoir pour le moment. En tout cas, la réforme des retraites, c'est un peu mal barré pour le gouvernement. Hein. Il s'est un peu fragilisé, le gouvernement, en ce moment. Le congrès du PS, bataille, clash, irrégularité. On en parlera tout avec les débatteurs. Oui. N'est-ce pas la crise? Adrien Quatennens. Alors, mon cher Adrien Quatennens, où as-tu disparu? Il est exclu du parti de gauche. Hein. C'est un peu normal, hein? Ne soyons pas surpris. Mais j'ai envie de poser une question. Et la question que je poserai tout à l'heure aux débatteurs influenceurs, c'est finalement, est-ce qu'il ne devrait pas démissionner de son poste, de son mandat de député? Ça serait classe, Adrien Quatennens, non? Clochette! Bref. Alors, je préfère vous prévenir, on parlera aussi de la consommation, parce qu'il y a le ministre de la Transition écologique qui dit « Je vais prendre des mesures pour réduire la consommation d'eau. » Parce que ça craint, les amis. Là, je vous jure, ça craint. Dans les années à venir, nous allons être heurtés à une véritable sécheresse. Donc le ministre dit quoi? Il s'adresse aux agriculteurs, aux collectivités, aux particuliers, pour réduire la consommation d'eau. Il paraît même qu'il va y avoir un appareil qui risque d'être installé automatiquement pour réduire l'eau. Plus de bain, plus rien. Ah! Allez, c'est parti les enfants, mais c'est tout de suite, c'est maintenant et plus que jamais. Chez nous en tout cas, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Et c'est parti pour l'interview du jour.
Les Informés, l'interview.
Et c'est avec Jérôme Bonnet, le patron de la rédaction et rédacteur en chef de RT France. Mon cher Jérôme Bonnet, bonsoir.
Bonsoir Adil, effectivement la liberté d'expression, elle est chez vous. La preuve, je suis là, je voulais juste rectifier, je ne suis pas le seul rédacteur en chef, il y en a d'autres. À RT de très estimés collègues. Je suis le plus vieux, toutefois.
Bon, en tout cas, Jérôme Bonnet, on me signale qu'il va falloir coller, évidemment, votre voix au combiné de votre téléphone, parce qu'on vous entend au loin et qu'à l'antenne, le rendu antenne n'est pas fameux du tout, du tout. Donc, si vous voulez être audible auprès de nos auditeurs de qui vous écoutent de toute la France, il faut vraiment, vraiment...
Est-ce que comme ça, c'est mieux?
Ah, on me fait signe, on me dit rien à voir. Effectivement.
Ah bon, voilà, parfait. Ben voilà, je vous prie de m'excuser.
Ah, sinon, c'est vrai que l'interview, elle était un peu faussée. Alors, RT France, ça y est, c'est officiel. Ça ferme. Vous le confirmez?
Pour l'instant, disons que c'est l'issue un peu inéluctable. Pour l'instant, c'est toujours pas le cas, puisque...
On va voir ce qui va se passer. Elle a cessé d'émettre ou pas?
Alors oui, ça oui. Effectivement, la télé n'émet plus... mais il y a tout de même des gens qui travaillent, en fait c'est une société, hein, donc il va falloir un certain nombre de procédures administratives, j'imagine,
qui mèneront effectivement à sa fermeture, la cessation de paiement, liquidation judiciaire. Je suis pas un spécialiste de ces questions-là. Mais oui, c'est un peu l'issue inéluctable. Faut pas s'obsesser d'illusions. Hein,
c'est pas un peu triste pour une chaîne de télévision d'annoncer le clap de fin, quand même, Jérôme Bonnet?
Ah, c'est une tristesse immense. Enfin, moi,
c'est terrible, hein.
Je suis vraiment très triste. En plus, dans le cas de RT France, c'est une chaîne qui a beaucoup fait appel à des jeunes. Il y a beaucoup de journalistes à qui on a donné leur chance. Et je dis pas ça par démagogie parce que je suis sur votre antenne, mais la diversité était très bien représentée chez nous. Là, ça se voyait à l'antenne, d'ailleurs. Mmh. Tout un tas de gens comme ça qui ont grandi, avec lesquels on a grandi, nos filles, et qui sont fortement en
face. On est en train de vous perdre, mon cher Jérôme Bonnet. On vous a complètement perdu. Ça y est.
Vous n'avez plus, vous m'entendez
plus? Ah, le retour de Jérôme Bonnet. Décidément, je vais finir par croire que, entre hier et aujourd'hui.
C'est incroyable.
Ouais, c'est incroyable, effectivement. Jérôme Bonnet, ne sombrons pas dans le complotisme.
Bah, non, ce serait malvenu.
Jérôme Bonnet, vous savez, je vais vous poser une question très simple. Est-ce que finalement, avec ce clap de fin, avec une voix qui s'éteint, d'accord, la voix d'une chaîne, hein, évidemment RT France, la chaîne russe, donc RT France, hein, c'est officiel, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas aussi quelque part bannir tout ce qui, de près ou de loin, toucherait la Russie?
Ben, malheureusement, si. Hein. On voit bien que de l'opposition à un gouvernement, aux actions entreprises par un gouvernement, il y a eu un glissement progressif assez inquiétant. Hein. Moi, je suis français, ça m'inquiète de voir ça dans mon propre pays, vers une forme de détestation de tout ce qui est russe. Il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu à la télévision française un peuple entier, en l'occurrence les Russes, être comparé à des cafards, à des rats.
Je vous perds, on vous a perdu là.
Ah non, c'est pas vrai.
Si, si, on vous a perdu pendant quelques secondes. Si, si.
Ah non, mais c'est insupportable. Ouais, est-ce que vous voulez que. Ouais,
non, mais
me rappeler peut-être.
On poursuit, non, mais bon. On poursuit l'interview. Non, il faut. On est en direct, hein, donc.
D'accord.
Ouais, ouais. Allez, je suis vraiment. Ouais, non, là, on vous a complètement perdu. Ouais, je vais finir, vraiment, je vais finir par croire que. On va le rappeler. On va le rappeler parce que, effectivement, moi, je crois pas qu'il n'y a pas une histoire de. Parce que c'est RT France, que tout d'un coup, soudainement, effectivement, chers amis auditeurs, qu'on doit fermer le clapet, le bec à la chaîne. Hein. Je doute que même. Je suis pas sûr, mais bon. Allez, 01 53 48 3000, vous savez, on va retenter, on va le rappeler. Jérôme Bonnet, le rédacteur en chef de la chaîne RT France, qui vient de l'annoncer, c'est officiel, elle ferme, ça y est. Elle n'émet plus. Mais on veut comprendre, nous, les raisons. Est-ce que c'est lié à la Russie? Puisque c'est une chaîne russe, hein. Chaîne russe française, mais bon, en tout cas, elle émet ici. Hein. Mais bon, on veut comprendre ce qui se passe. Jérôme Bonnet, on vous récupère? Vous êtes avec nous? Voici, le voilà. Alors, Jérôme Bonnet, on vous a récupéré.
Je suis de retour.
Oui, je vais finir par croire vraiment que là, il y a un vrai sabotage. Hein.
Disons que on veut nous pousser au complotisme.
Ouais. Mais dites-moi, Jérôme Bonnet, vous, le rédacteur en chef d'RT France, comment est vécu en interne tous les journalistes, le personnel, comment vous l'avez vécu effectivement quand on vous a annoncé que la chaîne doit fermer?
Il y a beaucoup d'abattement, mais il y a aussi énormément de colère. Parce que, en fait, il y a un sentiment d'injustice. Total, qui est partagé par absolument tous les gens de rédaction aujourd'hui, parce que à forte partie, lui-même, le personnage le plus puissant de France, n'avait pas caché son hostilité envers nous. Donc on savait que sa partie serait pas facile, mais nous, notre pari, c'était que la loi nous protégerait, que si on restait dans le strict code du journalisme, l'effet d'aubaine, évidemment, il y a des événements qui nous dépassent de loin. Avec cet effet d'aubaine, et bien finalement, aujourd'hui.
Non, malheureusement, on peut pas poursuivre l'interview. Je suis désolé, Jérôme Bonnet, mais les conditions ne sont vraiment pas possibles parce qu'on vous entend à peine à l'antenne. Alors, soit il y a un problème avec votre portable, je pense qu'il y a vraiment qu'il y a un problème de liaison. de connexion. Je pense qu'il y a un problème de connexion, Jérôme Bonnet. On vous a complètement perdu. On a, je pense, que ça doit être votre problème avec. Vous avez un problème avec votre portable. Alors, de deux choses l'une, soit vous avez un fixe et on vous appelle sur un fixe, mais avec votre portable, ça ne passe pas du tout. On ne vous entend pas du tout à l'antenne. Je pense que vous avez des problèmes.
Alors, fixe.
Je ne sais pas si vous m'entendez, mais le standard vous reprend. Moi, je ne vous entends pas du tout, en tout cas, à l'antenne. Mais si vous m'entendez, Jérôme Bonnet, le standard va vous récupérer pour essayer d'avoir un fixe, parce qu'on ne vous entend pas du tout, du tout, du tout. Je pense que là, on rencontre de vraies difficultés. Vous pouvez vous appeler au 0153 48 3000, parce que je voudrais converser avec vous, chers amis auditeurs, qui nous suivez partout en France, et vous êtes de plus en plus nombreux, et je vous en remercie infiniment. Nous allons parler du Parti Socialiste, franchement. Est-ce que ce n'est pas un peu l'image que est en train de nous offrir le Parti Socialiste, encore une fois, vous savez, qu'il y a une vraie querelle interne, une querelle d'ego, une querelle de, évidemment, de bataille, de pouvoir. Est-ce que le Parti Socialiste, vous le voyez comme avant, c'est-à-dire maintenant qu'il est plongé dans une crise, franchement, qu'on se le dise, est-ce qu'il existe encore, ce Parti Socialiste? La question que je pose, et je vous la pose vraiment, est-ce que le Parti Socialiste existe-t-il encore? 0153 48 3000, je voudrais qu'on prenne le temps d'en parler, de connaître votre point de vue, de connaître aussi votre sentiment. Le Parti Socialiste, ma question est très simple, et je vous la pose, existe-t-il encore? Est-ce qu'il y a encore, vous pensez vous-même, un espoir qu'il existe? 0153 48 3000, je vous attends au standard. Anthony vous attend au standard. Alors, on me souligne que on a réussi à récupérer Jérôme Bonnet, le rédacteur en chef de RT France.
Alors, si ça fait la même chose.
Exactement. Si avec un fixe, on a la même chose, alors là, je vais finir vraiment par moi-même me poser des questions. Alors, dites-moi, je vous posais la question, comment le personnel et les journalistes, surtout, le vivent
Je disais, il y a de l'abattement, de la tristesse, mais il y a aussi et surtout un sentiment de colère. De colère parce que tout le monde, chez nous, a le sentiment d'une grande injustice. On a toujours su que la partie ne serait pas facile lorsque le président de la France se déclare lui-même votre ennemi juré. Vous savez que la partie ne va pas être facile. Mais le postulat, le pari, c'était que la loi faisait notre travail. Eh bien, on ne pourrait pas nous coupler le sifflet. Et malheureusement, avec cet effet d'aubaine lié à des événements évidemment tragiques qui nous dépassent complètement, avec cet effet d'aubaine, eh bien finalement, ce pari, aujourd'hui, il est perdu. Et je trouve ça triste pour la France. Et pour ce qui est, pour en venir aux équipes, eux, si vous voulez, ils ont un sentiment d'injustice. Ils ont toujours fait leur travail avec tout leur cœur, et aujourd'hui, on leur dit que ça s'arrête quand même.
C'est quoi le véritable message quand le message qu'on vous envoie justement lorsqu'on vous dit RT France, c'est fini? C'est quelle grille de lecture vous avez, vous, rédacteur en chef? Alors qu'on est en pleine guerre, effectivement, c'est de la politique.
C'est de la politique, évidemment. Ça ne va pas être autre chose que de la politique, parce que
Je vous ai perdu.
Contraire à la loi.
Vous savez que je vous ai perdu pendant 5 secondes, Jérôme Bonnet?
C'est pas possible.
Et si, je vous promets, pendant quelques secondes, on vous a perdu.
Incroyable.
Ouais.
Incroyable.
Et pourtant, c'est un fixe, là. On ne dira pas que je vous ai perdu pendant quelques secondes.
C'est fou. C'est bon. Mais écoutez, j'espère que ça va aller. Je vais essayer de faire des réponses courtes, peut-être.
Allez-y.
Beaucoup d'injustices, beaucoup d'abattements, beaucoup de regrets.
Ouais.
Mais
qu'est-ce qui va se passer maintenant désormais pour pour ceux qui ont bossé à vos côtés, les journalistes notamment? Est-ce que par exemple, quand on vient d'RT France, on peut aller postuler dans d'autres chaînes désormais? J'imagine, parce que j'ai longtemps entendu que cette étiquette RT France posait problème, que c'était un sujet évidemment compliqué.
Je sais pas. Alors moi déjà, ma carrière est derrière moi, donc elle ne peut pas se résumer à RT. J'ai 31 ans de journalisme maintenant. Mais pour les plus jeunes, la question peut se poser. En effet, quand on voit ça par le prisme de ce qu'on peut voir à la télé, etc., la partie visible de l'iceberg, disons, on a quand même le sentiment que oui. Quand je rencontre, moi, des confrères, des professionnels, en général, c'est pas le discours que j'entends. Ils me disent que, quand on est professionnel et qu'on sait faire son travail, quand on est journaliste, on peut voguer d'une rédaction à l'autre. Donc eux disent toujours qu'en fait, ils n'ont aucun problème avec ce que nous faisons.
Maintenant, il y a aussi des pressions politiques, visiblement, et prendre quelqu'un de RT et le mettre très en vue, est-ce que ce serait... Ben, je pense que ce serait un beau coup, moi, personnellement. Mais en tout cas, est-ce que ce serait toléré par les autorités? Je ne suis pas sûr. Je sais
en
pas.
Quelques secondes, Jérôme Bonnet, dites-moi, vous, oui. rédacteur en chef, qu'est-ce qui va se passer pour les journalistes des armées aujourd'hui? Quels sont les échanges que vous avez avec eux? Et puis, qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous écoutent partout en France?
Alors, avec mes journalistes, il y a beaucoup de messages d'encouragement, de soutien. On est très soudés. On se serre les coudes. Et ce que j'ai envie de dire plus généralement, c'est qu'il y a un précédent. Là, aujourd'hui, un média a disparu sur diktat, venu d'on ne sait où, sans aucune procédure légale classique. Et ça crée un précédent assez dangereux pour la presse en France.
Bien. Merci infiniment, Jérôme Bonnet, le rédacteur en chef d'RT France. Et on suivra tout cela avec attention. Je m'excuse auprès des auditeurs, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de micro-coupures à l'antenne. Merci, Jérôme Bonnet. Et je souhaite
Merci
évidemment plein de bonnes choses pour la suite concernant vous et vos équipes. Merci à vous.
Et également, à très bientôt, Adil. Merci.
À très bientôt. Merci, Jérôme Bonnet. À très vite. On marque une courte pause pub et on se retrouve tout de suite après au 01 53 48 3000. Le standard vous attend. À tout de suite avec l'histoire du pays.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
Et les informés, c'est tout de suite, c'est vous, vous au 01 53 48 3000, c'est parti, 18h23, jingle.
01 53 48 3000, les informés vous donnent la parole.
Chers amis auditeurs, partout en France, je voudrais vous entendre, Anthony, vous attend au standard, j'ai plusieurs sujets à vous proposer justement. Alors Adrien Quatennens, vous savez, le député qui a longtemps fait parler de lui, évidemment, hein, on ne peut pas ignorer l'affaire de violence conjugale avec son ex-épouse. Alors, est-ce que vous êtes évidemment favorable, ça y est, il est viré donc du parti de gauche, mais est-ce que vous êtes favorable pour qu'il quitte complètement l'hémicycle, c'est-à-dire qu'il quitte son mandat de... Ce serait peut-être honorable, hein, est-ce que là-dessus vous vous tendez vers ça ou est-ce qu'il doit continuer à poursuivre son mandat donc de député? Première question, évidemment, j'aimerais aussi qu'on parle du Parti Socialiste, parce que le Parti Socialiste, on peut se poser la question, existe-t-il encore? Est-ce qu'il existe encore dans l'univers politique? Ça aussi, je voudrais vous entendre. Et puis, troisième question, vous savez, il y a... on parle de plus en plus de chars qui vont être livrés en Russie, en Ukraine, pardon. Il y a les États-Unis avec Joe Biden et son annonce qui dit voilà vouloir livrer donc des chars, 31 au total. On parle de l'Allemagne, on parle de la France, on parle de quelques pays européens. Alors beaucoup se posent la question, est-ce qu'il va pas y avoir une espèce de guerre mondiale, voilà, qui peut être annoncée. En tout cas, certains se la posent, ils peuvent se la poser. Est-ce que vous aussi, avec toutes ces annonces, vous la posez? J'aimerais vous entendre aussi au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Là, maintenant, je ne bouge pas. Évidemment, on vous attend au standard. Plutôt, Anthony vous attend au standard.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Voilà, trois sujets sur lesquels j'aimerais qu'on pose, qu'on prenne le temps d'en parler. C'est très, très important, les amis. Parce que quand on voit ça, on est en train de se dire quand même qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se dessiner. Entre l'éclatement, l'effondrement du Parti Socialiste, entre l'Ukraine, avec évidemment une poussée un peu plus d'un ton, d'un cran, le ton monte d'un cran désormais maintenant, on s'interroge sur pas mal de choses. Et puis je voudrais aussi vous entendre sur Adrien Quatennens et l'exemplarité. Allez, Fatima de Paris, bonsoir Fatima. Fatima, bonsoir.
Comment allez-vous?
Allô. Vous, c'est le retour, parce que ça fait très longtemps que je ne vous ai pas eu à l'antenne.
Oui, oui, j'étais absente.
Ça va, rien de grave, rassurez-moi.
Non, ça va, alhamdoulilah.
Bon.
Ça va. Même Vanessa, il paraît qu'elle a demandé après moi et je la remercie.
Ah oui, vous êtes une fidèle auditrice, donc on s'inquiète, nous.
Merci beaucoup, tant le faire à mon collègue.
Ben écoutez, merci.
On répond aux trois ou juste à une seule question?
Ben les trois seraient un peu compliqués, mais sauf si vous faites les trois en quelques secondes. Ça me va.
Bon, tout d'abord, moi, je voudrais parler ce qui est très important pour moi du Parti Socialiste.
Ah.
Alors, le Parti Socialiste.
C'est que vous adorez la politique, vous.
Et il continue à creuser.
Oui.
Parce que ceux qui l'ont mis au fond, ont été réélus.
Oui.
Donc, c'est à ne plus rien comprendre.
Oui.
La deuxième chose, c'est que Adrien.
Quatennens.
Voilà. Tout le monde tombe sur Adrien. Bon, c'est un geste qui est condamnable, tatati, tatata. Mais personne ne connaît exactement la situation, comment c'est arrivé. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème entre un homme et une femme, on prend la parole de la femme comme si c'était un Coran ou la Bible ou la Torah, mais on ne sait pas exactement pourquoi la personne est arrivée à faire ce geste.
Ouais.
Vous comprenez?
Oui, ouais,
parce que moi, je connais.
C'est la justice, hein, c'est le travail de la justice.
Oui, mais c'est le travail de la justice, mais quand c'est condamné par les médias, ça, c'est fini.
Ouais, c'est
vous comprenez?
Vous parlez du tribunal
donc,
médiatique.
Il est déjà condamné par les médias. Donc la justice, comme on dit chez nous, faudra tout gâcher.
Bon.
Quant à quant aux Allemands à qui on a forcé la main pour envoyer des chars en Ukraine, les Français qui vont envoyer je ne sais pas quoi, eh bien, nous, c'est nous qui payons les pots cassés. Regardez, les boulangeries sont en train de fermer, les machins.
Oui,
donc on va crever
pendant
que M. Zelensky...
Le pouvoir d'achat, là, il va prendre de l'ampleur. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais vous savez, dans les mois à venir, là, justement, ma chère Fatima, ça va être chaud.
Pas les mois
ça
à
va
venir.
Être très compliqué. Ça va être très compliqué.
Vous avez entendu les boulangeries de 3 000 euros, ils payent, je crois, 17... Ils sont à 20 000 ou je ne sais pas.
On en a parlé il y a 15 jours ici. On en a parlé il y a 15 jours. Moi, je vous parle du pouvoir d'achat. Je vous parle de quand vous allez faire vos courses. Moi, j'hallucine. Franchement,
exactement.
Les prix volent partout.
Exactement.
Vraiment.
Exactement.
Moi, je me pose des questions.
Exactement. Et ce qu'il faut faire, Adil, pour finir, il faut boycotter les grandes surfaces parce qu'ils ont quadruplé leurs prix. Il faut opter pour les marchés, pour les petits magasins.
Le simple grec. Non, mais c'est vrai. Je parle d'un truc banal. Hein.
Hier,
j'étais avec des copains.
10 euros. 6-7 euros.
Il est passé de 7,50 € à 10 euros. 10 euros! Moi, je ne suis pas un amateur de grec, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, on va où? Moi, j'étais resté, Fatima, bloqué à 7,50 €. Ça m'a choqué.
Exact, Adil. Mais le grec, il lui a augmenté l'électricité, il lui a augmenté les taxes, il lui a augmenté les ingrédients. Donc, c'est tout à fait normal qu'il augmente. C'est une chaîne. Ça, c'est une chaîne. Et moi, je pense que il faut hausser le ton pour que ça cesse.
Bon.
Voilà.
Vous avez raison.
Je vous embrasse, mon fils.
Moi aussi, je vous embrasse. Moi aussi, je vous embrasse. Et merci.
Merci
pour votre retour.
Merci beaucoup.
Elle nous avait manqué, Fatima. Fatima, c'est l'une des plus fidèles aux auditrices de la radio. Hein. Ça fait très longtemps que je l'entends, Fatima. Oui, comme ça, il y a des... Tiens, je ferai un petit concours, tiens, avec les auditeurs dans les prochains jours. Je verrai quel est le plus ancien auditeur de la radio. Amine de Toulouse. Bonsoir Malik, pardon. Amel Malik de Toulouse.
C'est
Malik, non?
Oui, ça.
Malik, bonsoir. Comment ça va? On vous entend pas, Malik. Hein, vous avez un problème de connexion, vous aussi. Hein, comme notre invité tout à l'heure. Hein. On vous entend pas. On vous entend pas, Malik, du tout. Vous avez un problème de connexion. Bah, on va aller chercher notre quad neuf. Hein. Je sais pas ce qui se passe ce soir. Il y a un problème de connexion, de téléphone partout. Hein. Notre invité, on a eu des problèmes de connexion. Tout à l'heure, on a eu encore des problèmes de connexion. Les auditeurs, là maintenant, on a des problèmes de connexion. Qu'est-ce qui se passe? Les émetteurs ont un problème ce soir ou quoi? Que se passe-t-il? J'espère qu'avec le Quad 9, on n'aura pas un problème de connexion. Bref, 18h30, ce sera le Quad 9. Et ensuite, après, vous savez quoi, je vous attends. 01-53-48-3000. Continuez à nous appeler parce que j'aimerais vous entendre sur ces trois sujets. Hein, très, très, très importants. Ces trois sujets qui sont, évidemment, qui nous concernent tous dans notre quotidien. On parle de l'Ukraine avec la livraison de chars. Je vous l'ai dit, Joe Biden qui souhaite envoyer des chars. Donc voilà, ça interroge. Beaucoup se posent la question sur une potentielle troisième guerre mondiale. Autre aussi, il y a le congrès du PS, c'est-à-dire le Parti Socialiste. Existe-t-il encore? Et on parle d'Adrien Quatennens. Faut-il qu'il démissionne son poste de mandat? Le Quad 9, c'est parti.
Les informés. Le Quad 9.
Et le Quad 9, comme chaque mercredi, c'est avec El Professeur, le docteur, notre docteur à nous, il s'appelle Majid Soussine. Bonsoir docteur.
Bonsoir mon cher Adil.
Plaisir de vous retrouver, j'espère que vous n'avez pas de problème de connexion avec votre portable, puisqu'on n'arrête pas d'avoir des problèmes de connexion de portable. On vous donne la parole plutôt, parce que vous avez décidé de parler de la réforme des retraites.
Bah écoutez mon cher Adil, avant de commencer, je voudrais d'abord qu'on vous applaudisse.
Ah.
Pour cette réussite formidable, cette magnifique opération réalisée à la gare de l'Est, ce sabotage fait à la demande de la Russie après la fermeture de RT News est une œuvre d'art.
Oui.
J'espère seulement que vous ne vous ferez pas prendre, car je serai triste de ne plus pouvoir chroniquer le mercredi. Je ne pourrais pas me faire prendre,
puisque j'ai eu le rédacteur en chef tout à l'heure, qui était notre invité d'RT France. Eh ben voilà, vous ne croyez pas si bien dire. Voilà.
Bon, en tout cas, maintenant, Adil, il ne vous reste plus qu'à saboter la réforme des retraites pour devenir un héros national. Vous me direz que vous n'aurez pas un gros effort à faire.
Il a droit à une clochette.
D'autres, car d'autres s'en chargent déjà au sein du gouvernement, où M. Riester, par exemple, ministre, déclara que les femmes seraient désavantagées. Comme disait Voltaire, je me méfie de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Peut-être que son seul tort à ce brave homme est d'être honnête, ce qui n'est jamais bon en politique. Convenez-en avec moi.
Lui, il va sauter, lui, hein, c'est sûr.
Ah, il a des chances. En tout cas, je tiens à dénoncer fortement une discrimination supplémentaire fondée sur l'origine. Rendez-vous compte, mon cher Adil.
Oui.
Depuis des mois, je cherche à changer de voiture, sans succès. On m'objecte des pénuries de composants et d'autres mensonges. Et ne voilà-t-il pas que j'apprends par la presse que des gens sous prétexte qu'ils sont ukrainiens, sous prétexte que les Russes les titillent un peu pour les faire rentrer dans le droit chemin, celui de la Grande Russie qui n'aurait jamais dû quitter, s'ils avaient deux sous de jugeote, eh bien ces Ukrainiens, qui sont bien sûr blonds aux yeux bleus, sauf Zelensky évidemment, eh bien ne voilà-t-il pas qu'on leur livre des chars Léopard, des chars Abrahams, alors que moi évidemment, brun aux yeux marrons, je dois continuer de circuler avec mon véhicule habituel. Un scandale dont personne ne s'émeut visiblement. Tiens, mon cher Adil, ça donne envie de prendre la nationalité ukrainienne. Hein. Par le mariage, bien sûr, vous vous en doutez.
Il est bon.
Pour finir, je voulais saluer une femme remarquable de l'autre hémisphère, Jacinda Ardern, ex-première ministre de Nouvelle-Zélande. Elle avait eu une attitude exceptionnelle après un attentat meurtrier dirigé contre des musulmans en Nouvelle-Zélande en portant le voile en hommage à toutes les victimes. Eh bien la voilà, dans un nouvel acte de courage, assez rare, apprenant qu'elle serait désavantagée par la réforme des retraites en France, elle a décidé de démissionner et de se retirer dans sa cuisine, à sa juste place, comme vous avez coutume de le dire, mon cher Adil.
Oui.
Et je pense qu'on peut rendre hommage à cette femme qui est remarquable et qui est un bel exemple de vertu.
Bien sûr qu'on lui rend hommage, évidemment, et respect. Merci. Ah, c'est la fin ? Pardon ? Pardon ?
Attendez,
c'est pas ça. C'est que vous m'avez pris au dépourvu, comme on dit.
Bah écoutez, si je vous ai surpris,
Bravo. Je suis d'autant plus... Bravo, mon cher docteur Majid Soussine. J'aimerais vous poser une question. Dites-moi, comment vous voyez l'ambiance avec la réforme des retraites, vous, médecin ?
Bah, écoutez, vous savez, nous, les médecins, on a quand même relativement l'habitude de travailler très très tard. Donc moi, je m'attendais pas à partir à la retraite à 62 ans, d'autant que je suis rentré sur le marché du travail un peu tard compte tenu de la longueur de mes études. J'ai un certain nombre de collègues qui travaillent jusqu'à 70, 72 ans, mais c'est pour l'amour du métier et on peut le comprendre. Alors évidemment, la réforme des retraites, elle vient un peu plomber un peu plus une ambiance qui est déjà assez morose. Moi, j'espère qu'on verra pas de débordement et de violence et que finalement le dialogue et la raison finiront par prévaloir. Mais chacun a son opinion sur la réforme des retraites, mais les chiffres sont les chiffres.
Hein. Les chiffres sont les chiffres, absolument. Mon cher docteur Majid Soussine, merci infiniment d'avoir été avec nous comme chaque mercredi. Je vous souhaite évidemment bonne fin de semaine et puis surtout un mercredi prochain sans faute.
Avec joie,
plaisir.
Votre console fonctionne, hein. Payer l'électricité, ça fait des mois, je vous le dis. Hein.
C'est ça, vous avez bien raison, effectivement. Ouais. Oui, c'est vrai, vous avez suivi nos excuses hier à l'antenne, c'est bien, avec quelques petits soucis techniques, effectivement. Merci, mon cher docteur. 18h34, allez, on marque une pause. On se retrouve avec nos auditeurs, 01-53-48-3000, mais également aussi le débatteurs influenceurs qui sont avec nous. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
Le face-à-face, chers amis auditeurs, 18h40, c'est parti, vous le savez, comme chaque soir dans les informés, c'est le moment où justement les points de vue convergent et puis surtout on va s'intéresser aux quatre sujets qui ont retenu notre attention aujourd'hui. C'est parti.
Les informés, le face-à-face.
Avec Gamal Abina, bonsoir Gamal Abina, le porte-parole de l'association des porte-voix.
Oh, le MDC, moi,
le MDC, voilà c'est ça.
Français, droit civique américain.
Pourquoi j'ai un problème, moi, avec.
Parce que le mot peut-être n'est pas évident, le
mouvement. Non, il n'est pas évident aussi, il est évident. Pourquoi je vous dis, il n'est pas évident. Vous avez vu le lapsus que je viens de faire au lieu de dire, oh, il est évident, j'ai dit, non, il n'est pas évident. Ouais, trop fort. Bon, plaisir de vous retrouver. Il y en a un qui est le retour, le grand retour. Comment ça va, mon cher Ahmed Lawedj ?
Ça va, merci Adil, merci, je vais bien.
Bien.
Ça va.
PRG toujours, le patron du PRG.
Toujours le patron du PRG, toujours vice-président national du PRG, et puis candidat aux élections sénatoriales en septembre prochain.
Septembre prochain ? Bon, vous allez en parler ici sur la radio.
Oh, je viendrai en parler le moment venu. Ouais. Mais je viendrai en parler, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, la Seine-Saint-Denis a besoin d'un sénateur qui y travaille, qui y vit et qui connaît un peu le...
Et je sais que vous avez perdu votre maman, donc on vous souhaite nos sincères condoléances, évidemment.
Ça a été dur. Ouais. La fin d'année a été très dure pour moi.
Très dur. Bon. Écoutez, on vous la souhaite meilleure en 2023.
Merci.
Allez, tout de suite, messieurs, nous allons parler, vous savez quoi, d'un sujet qui nous concerne tous, c'est la réforme des retraites, et bien qui prend une autre orientation. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, et puis vous aussi, au 0153 48 3000, chers amis auditeurs, vous pouvez nous appeler, Anthony vous prend, évidemment, vous passez à l'antenne, vous êtes aussi prioritaire. Très honnêtement, aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que l'exécutif, il se commence à se fragiliser? Ça y est là, hein? Et puis la rue s'empare, ça y est, si vous voulez, de plus en plus de cette réforme des retraites Gamal Abina. Quel regard avons-nous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez comme, évidemment, analyse?
Je dirais pas que l'exécutif se fragilise, ce sera un petit peu aller vite en besogne. Je dirais qu'il y a une mobilisation qui commence à monter crescendo, qui a démontré dès la première séquence, enfin, c'est pas la première séquence, il y a eu plusieurs mobilisations qui ont été des échecs, mais là, qu'ils étaient capables de mobiliser entre 1 et 2 millions de personnes. Donc ça, c'est un vrai rapport de force qui commence à être créé. Est-ce que ça tiendra dans la durée, c'est autre chose, mais je crois pas un instant que
vous y croyez pas.
Que l'exécutif recule là-dessus ou qu'ils se sentent en difficulté, pas une seconde.
Mais ils ont pas la cote là, ni le gouvernement, ni le président de la République, ni évidemment la réforme des retraites là, ça fait beaucoup quand même Gamal Abina.
Ça fait beaucoup quand même là.
C'est un vrai bras de fer qui s'installe, on peut le dire quand même, hein.
Oui, bien sûr, mais ça fait 5 ans qu'il a pas la cote, il a passé plusieurs lois par le 49.3 d'autorité. Et en 5 ans, sans la cote, avec le Covid, les crises sociales, il y a eu quand même des mouvements de grève avant le Covid, les gilets jaunes qui ont quand même duré très longtemps, pratiquement un an, presque 2 ans, eh bien, quelqu'un qui tient sur une telle longueur avec autant de catastrophes, coup sur coup, durant 5 ans, je pense que ça, c'est pas très compliqué à gérer.
Vous êtes d'accord avec ça, Ahmed Lawadj?
Je le rejoins un petit peu, mais bon, là où je mets un des bémols, c'est qu'aujourd'hui... je crois qu'on va le voir le 31 janvier, la deuxième mobilisation, qui va être importante et qui voudra regarder...
Mardi prochain, oui.
Avec attention, et je pense qu'il y aura plus de monde. Par contre, l'exécutif n'a pas peur des manifestants, je dirais, syndicalistes qui manifestent aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, l'exécutif a peur du blocage du pays. Mmh. C'est ça qui va les faire, à mon avis, bouger.
Et être
force de proposition pour essayer de...
Comme en 95, finalement.
Tordre un petit peu pour essayer de baisser, de passer de 64 à 63, même vis-à-vis du syndicalisme avec la CFDT, où il y a des discours qui sont un petit peu en discussion, je dirais, en pas de porte, et puis sous-jacent. Et puis, ils ont une autre crainte. Et là, il faut faire très attention. La jeunesse.
La jeunesse, exact.
Si la jeunesse se mobilise, je pense qu'il y aura un véritable problème, un séisme dans ce pays par rapport à la retraite. Et c'est ça qu'ils ont peur. Le reste, je ne pense pas qu'ils aient peur. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi la droite qui est en train d'aussi, qui aujourd'hui ne va pas voter d'un seul homme. Et ça aussi, ça peut les inquiéter parce que ils ont essayé d'avoir Ciotti dans la poche, mais vous avez d'autres députés qui sont aujourd'hui qui vont sur le terrain, ils se prennent des carottes dans la figure et des navets et des betteraves. Donc là aussi, il faudra qu'ils fassent très attention.
Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui la rue, dans ce bras de fer, c'est elle qui tient la main aujourd'hui pour le moment? C'est-à-dire que est-ce que c'est l'exécutif ou est-ce que c'est la rue? Est-ce que c'est la mobilisation justement massive, hein, à la fois des syndicats, vous savez, des gilets jaunes, de ceux qui sont pas syndiqués, des salariés, etc., qui aujourd'hui qui tiennent, hein, ce bras de fer, ou est-ce que l'avantage est plutôt aujourd'hui concerne plutôt ceux du gouvernement?
Non, je pense que là où ils font attention, c'est sur le blocage du pays. Si demain il y a une grève des gens qui ne...
Mais ça commence là, regardez.
Au niveau des raffineries, au niveau des trains, au niveau de l'éducation nationale, au niveau de l'électricité, au niveau de tout ce qui peut bloquer le pays, c'est-à-dire blocage, les routiers, qui est vraiment...
95.
Voilà, plus que 95, parce que là, on a la retraite, mais on a le pouvoir d'achat aussi. Parce qu'on n'a pas que ça aujourd'hui. Et puis on a l'énergie aussi qui augmente de... Là, on ne sait pas, mais les gens, ils ont reçu leur facture de décembre. Mais quand ils vont recevoir leur facture au mois de mars, ça va être différent. Donc voilà, donc là, il y a tout un tout qui fait qu'à un moment donné, il y a une explosion. Et c'est ça, je ne comprends pas. C'est qu'aujourd'hui, l'exécutif fait comme si de rien n'était. Essaie de continuer.
Je pense qu'ils ont conscience.
Au Conseil des ministres, ils ont expliqué qu'ils ne bougeront pas. Ben écoutez, on verra. Moi, je ne pense pas que ce soit les 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes qui seront... Quand le pays il est bloqué, quand les gens ne peuvent pas aller travailler, quand les gens sont dans une situation où là, ils vont se dire « stop, ça suffit là, ça suffit ». Et donc je pense que là, il va peut-être y avoir... Je ne crois pas que ils iront jusqu'au bout des 64 ans. Je pense qu'ils vont essayer de trouver des compromis.
Et les compromis, ça veut dire quoi?
Je sais pas. Des compromis, c'est peut-être réduire à 63 ans, c'est peut-être réduire le nombre d'annuités, enfin le nombre de trimestres, le nombre d'années. Enfin, voilà. Je pense qu'ils sont, comme ils ont été un peu.
Les carrières longues.
Comme
les...
ils ont été un peu trop vite en disant voilà, retraite à 1200 euros pour tout le monde, je pense qu'ils ils se sont un petit peu emmêlés les baskets et donc à un moment donné, ils sont en train de dire bon, on va essayer de voir, mais on va revenir à la base de discussion. Après, je vous dis, hein, moi, dans l'idée, je vous le dis ici, je pense qu'il va y avoir une dissolution de l'Assemblée nationale.
Prochainement.
Après les sénatoriales.
Après les sénatoriales.
Je pense.
Donc de septembre octobre, prochain.
Je pense qu'en octobre, le gouvernement, parce que il n'y a pas des ministres aujourd'hui, à part même Darmanin ou Elisabeth Borne. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez un ministre qui est assez fort ou des ministres qui sont assez forts connus pour essayer de batailler aujourd'hui? Aujourd'hui, celui qui est en premier plan, c'est la première ministre. D'accord, le porte-parole et maintenant Dussopt qui essaie d'un petit peu de sortir.
Vous parlez quoi? Vous faites référence aux éléphants?
C'est pas aux éléphants, c'est qu'il y a pas, il y a pas un gouvernement qui est solide aujourd'hui. Si Macron ne parle pas tous les 24 heures en parlant de la retraite, en disant laissez faire l'Assemblée nationale, il y a une discussion qui peut se faire, il y a des avancées, il y a le Sénat, etc. Il y a rien, c'est le calme plat.
C'est le calme plat. Vous, qu'est-ce que vous dites? Vous, le calme à la mina. Le calme plat, et puis, si j'ai bien compris, un gouvernement qui est un peu frileux.
Non, il veut dire absent, c'est qu'il n'y a pas de figure charismatique, là, je suis d'accord. Mais à la limite, les 5 années qui sont passées, les figures charismatiques, elles étaient aussi ridicules, Schiappa et autres, bref. Il a quand même reconduit beaucoup de gens, hein, Darmanin est aux commandes. Moi, j'ai envie de dire, je vous avais envoyé une vidéo l'autre jour, vous vous rappelez, quand on a eu un débat la semaine dernière, sur le fait que Macron disait des choses, tout et son contraire, et qu'il a évolué dans le temps.
Ah oui, je l'ai reçu, absolument, je l'ai regardé.
2019,
bah, dis-le, parlez-en à l'antenne.
Voilà, donc il disait en gros qu'en 2019, 60 ans, c'était suffisant, qu'aller au-delà, c'est idiot, que c'est pas sérieux, que c'est pas crédible, et qu'on serait pas suivi. Ça, c'est ce qu'il disait.
C'était une compile, hein, de.
Une compilation de ces interventions multiples et variées. De 2019 à 2023, il y a quand même pas grand monde qui nous sépare, 4 années. En 4 années, on est passé d'un discours extrêmement positif pour les retraités à un discours extrêmement anxiogène. Maintenant, bon, cette réforme n'était pas une nécessité impérieuse, c'est vrai, le temps, on avait encore le temps pour ça. Et ce qui risque de faire un clash, c'est la concomitance entre cette réforme des retraites qui est mal vue par la population, contrairement à ce qui a été dit la dernière fois, c'est plus de 70% des gens qui sont contre. Et on parle de tout le
c'est
corps.
C'est beaucoup, hein?
Oui, tout le corps. C'est énorme, c'est massif. C'est plus qu'une majorité, c'est une majorité écrasante. Et le fait qu'il y ait un pouvoir d'achat en berne. Donc, il y a cette colère du pouvoir d'achat qui existe, s'agréger à la réforme. Et la majorité des gens parlent de pouvoir d'achat. Évidemment, la réforme permet de coaliser les syndicats parce qu'ils ne peuvent pas manifester pour le pouvoir d'achat. Par contre, ils peuvent le faire pour la réforme. Et donc, toute cette colère qui est en train de faire comme une cocotte minute va exploser. Et là où je vous rejoins totalement sur un point, c'est qu'effectivement, ce qui fait peur aux autorités en général de n'importe quel pays au monde, d'ailleurs, pas seulement la France, mais la France en particulier, on peut parler de ces cas de figure, c'est qu'à chaque fois que la jeunesse a pris la rue, mai 68, c'était
dont Ahmed Lawalch faisait référence.
Tout à fait. Ensuite, en 95, c'est la jeunesse, le contrat de nouvelle embauche, c'est pour la jeunesse. Quand ils prennent la rue, on ne les contrôle pas. Parce que les syndicats, c'est en l'ordre parfaitement rangé. Il y a rarement de débordement. Ils ont un SO qui fonctionne. Bon, quand on a dégagé le Black Bloc, il n'y a plus rien. Alors que quand la jeunesse prend la rue, elle demande plus, beaucoup et beaucoup plus vite. Et c'est des têtes brûlées souvent. Il y a eu des morts, on se souvient du Malik Oussekine. Donc ça leur fait. D'ailleurs, ça a cassé un mouvement, Malik Oussekine à l'époque. C'était 86. C'était la fameuse réforme de Vaquet au Piqué, on s'en souvient. Eh bien, encore une fois, la jeunesse était dans la rue. Donc il y a eu 4 grands moments historiques avec la jeunesse dans la rue. Et 4 fois, ça s'est mal passé et ils ont reculé. Donc si la jeunesse s'agrège à ce mouvement, parce que c'est loin pour les jeunes, la retraite, et en même temps, ils sentent bien que c'est leurs parents. Donc, s'ils s'agrègent à ce mouvement, il y aura une rupture, effectivement, et là, le gouvernement va reculer.
Et je rajoute une chose.
Ahmed Lawalch, oui.
Ils ont eu quand même le Covid. Ils ont eu le Covid.
Oui.
Aujourd'hui, les étudiants, ils tirent la langue. Ils tirent vraiment la langue. Hein. Mm. On le voit même dans des régions en France où vraiment, ils vont chercher leurs carottes, leurs pommes de terre parce qu'ils n'arrivent plus à manger. Mm. Et en plus de ça, on leur dit, vous allez travailler plus. Plus longtemps. Voilà, je vous dis pas. Je vous dis, hein,
mais quand on vous répond que l'espérance de vie, certains arguments que j'entends, c'est
oui, mais,
il y a plus d'espérance de vie, donc on travaille un peu plus, oui, donc, ce qui est un peu normal.
La valeur travail de l'époque et la valeur travail d'aujourd'hui, c'est plus la même. Aujourd'hui, on a envie de s'amuser. On a envie de voyager. On a envie de se faire plaisir.
Pourquoi les 35 heures, d'ailleurs?
La valeur travail, aujourd'hui, elle passe après. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, il y a un sondage qui a été fait, qu'il y a 60% de personnes qui aujourd'hui ne sont pas heureux dans le travail.
Qui ont envie de vivre.
Voilà. Et donc là aussi, ça aussi, c'est aussi important pour notre jeunesse. C'est-à-dire qu'on les a écrasés sur le Covid et maintenant on va les écraser sur le fait de vivre, de travailler plus longtemps. Qui peut dire aujourd'hui que...
Et quand on voit les pays voisins, quand on voit les pays,
on ne sait pas. Et on sait pas.
Mais quand on voit les pays voisins, par exemple, à l'âge de retraite, vous voyez, 65 ans, 67 ans chez certains pays.
Mais regardez en Suède, ils l'ont fait à 67 ans, ils sont en train de revenir dessus.
Oui, c'est vrai.
Ils sont en train de revenir dessus.
Pas des Allemands, des Espagnols.
Le choc dans l'histoire, c'est l'idée de se dire qu'il faille travailler plus longtemps pour préserver la retraite. C'est du n'importe quoi. J'ai envie de dire simplement, alors moi je ne suis pas de gauche, hein, c'est pas un problème, mais j'ai envie de dire une chose. On nous a imposé, je dis bien on nous a imposé, la gauche a imposé les 35 heures. Or, 4 heures de travail par semaine en moins par salarié, ça impacte évidemment sur le système de collecte de retraite, vieillesse et autres. On collecte moins d'argent parce qu'il y a moins évidemment de travail. Alors, travailler plus dans la semaine et travailler moins longtemps dans la vie, ça aurait peut-être été plus intelligent. Ensuite, moi je ne trouve pas normal qu'il faille faire reposer sur les travailleurs, qu'ils soient actifs ou pas, d'ailleurs, parce que les chômeurs sont aussi des travailleurs en potentialité. Leur faire reposer tout le poids de cet égarement économique parce qu'ils n'ont pas géré le pays, alors qu'il y a d'autres méthodes. Par exemple, augmenter l'assiette fiscale et l'assiette des charges à collecter en ayant plus d'entreprises. Ça aurait été intéressant. Moi, j'aurais suivi le gouvernement s'ils avaient dit on va mettre le paquet pour réindustrialiser, par exemple. Ils ne l'ont pas fait alors qu'il y a eu le Covid. On est toujours incapable en France de fabriquer un masque. Ça dit des choses. Le Covid n'a pas été un enseignement. Ensuite, il y a la possibilité de demander, ce que je demande tout le temps, le gel du règlement de l'intérêt de la dette. On n'a pas à devoir emprunter de l'argent, enfin, il faut savoir qu'on emprunte de l'argent pour payer l'intérêt de la dette. C'est de la folie aujourd'hui. Si on fait ce gel de ce poste-là, quatrième poste de l'État en termes de budgétaire, eh bien on libère d'autant plus d'argent qu'on peut le réaffecter ailleurs. Donc tout ça, c'est des méthodes qui peuvent permettre d'augmenter les capacités à générer des revenus pour l'État, à générer des revenus pour les organismes paritaires, que sont toutes les différentes caisses qui collectent pour la vieillesse, veuvage, et retraite, évidemment. Et si on réussit à agréger de la richesse suffisamment importante pour pouvoir rééquilibrer les comptes, on parle d'équilibre des comptes, à ce moment-là, on n'a pas tapé sur le travailleur. Aujourd'hui, on va taper sur le travailleur, c'est dindon de la farce, on n'a pas touché ses prérogatives, on doit aller sur le terrain vraiment de la collecte.
18h53, chers amis, on se retrouve dans une poignée de minutes. Je suis obligé, mon cher Ahmed Lawesh, de lancer la pub et je vous redonne la parole. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un... Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
Les informés, vous savez, c'est aussi avec Gamal Abina, mais également avec Ahmed Lawedge, 18h55 précisément, 0153483000, si vous venez de le retrouver. Sachez-le, chers amis auditeurs, venez participer aussi, y compris, on va parler d'un autre sujet, c'est le congrès du PS, les irrégularités, les guerres, les querelles, les militants, bref, tout cela évidemment. Est-ce que le Parti Socialiste n'est pas en train de s'effondrer dans une véritable crise? Existe-t-il encore le Parti Socialiste? C'est une question aussi que je vous pose, 0153483000. Gamal Abina, justement, vous voulez peut-être, juste avant qu'on enchaîne le second sujet, Ahmed Lawedge, je voulais dire quoi sur la réforme des retraites?
Non, j'ai le conseil
d'orientation
des retraites avait expliqué que, en gros, par rapport à leur rapport, que les retraites vont bien et qu'ils iront bien.
Justement. Oui, c'est vrai.
Et donc, je vois pas pourquoi aujourd'hui on nous met ça sur la table, alors qu'il y a d'autres choses qui sont importantes, notamment le pouvoir d'achat. Mmh. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je dis tous dans la rue le 31 janvier contre la retraite.
Bon rappel.
Bon, on l'aura compris effectivement, 18h56. Allez, on va parler du congrès et puis surtout du Parti Socialiste. Chers amis, existe-t-il encore ce grand parti où il y avait encore, vous le savez, encore quelques années, des penseurs, il y avait encore ces fameux éléphants, où il y avait encore tout simplement, eh bien... le parti qui rayonnait, les socialistes qui rayonnaient partout, évidemment, pas qu'en France, et dans le monde, existe-t-il encore aujourd'hui? Est-ce que ce congrès n'est pas venu démontrer qu'une fois de plus que le Parti Socialiste est en train de disparaître?
Bah moi j'ai envie de dire que les éléphants, il y a un cimetière pour les éléphants, c'est une chanson connue d'ailleurs, mais au-delà de ça... Non, le Parti Socialiste, qui était une fabrication mitterrandienne, c'est lui qui a fait l'Union de la Gauche en 72, a été tué par Mitterrand. Littéralement. Alors, c'était lui qui a envoyé les prémices. Évidemment, il a gagné deux fois, on le sait, deux fois de justesse. Mais 14 ans de socialisme mitterrandien, ça a laissé des traces. Après, on a eu un autre tueur, un autre François Hollande, qui a achevé de tuer ce parti avec des postures qui étaient de plus en plus droitières. Donc, j'ai envie de dire simplement, c'est que le socialisme n'est pas mort. Pour répondre sur l'international socialiste, il existe. Il est très incarné en Amérique du Sud et c'est un formidable mouvement de social en Amérique du Sud, qui est réel, qui fait du vrai socialisme. Le socialisme européen existe, c'est le fameux socialisme des pays du Nord, donc on dira simplement que c'est des partis qui sont plutôt dans un socialisme plutôt du centre, on dira, social-démocrate. et le socialisme français est mort, il peut être incarné. Maintenant, on peut dire que le curseur s'est déplacé avec les NUPS, par exemple, qui correspondent un peu plus à de la gauche, sans doute avec le PRG d'ailleurs, parce que je connais moins le PRG, mais je sais que les positions sont un peu plus sociales par rapport au Parti Socialiste. Et je pense que cette alternative qui est en train de se refaire va juste consacrer la mort d'un parti qui, de toute façon, devait mourir. Il a perdu tout, toutes les élections, toute sa crédibilité. Il doit donc en finir avec lui-même.
Bon, et des querelles, j'imagine, et puis les militants ont complètement perdu, et des querelles et des divisions
en interne. Les querelles internes, quand on a perdu que le bateau coule, en général, les rats quittent le navire, et ce qui reste se battent pour le bout de gras. Mais le bout de gras va quand même finir dans le... C'est titanique, le Parti Socialiste. Il n'y a plus de Parti Socialiste, il y a un Parti Titanique. Et ce Parti Titanique a du mal à accepter sa défaite. Mais il est en train de disparaître.
L'image du Parti Titanique. Ahmed Lawadj, justement, vous, quel regard portez-vous avec, évidemment, ce qui est en train de se passer?
Il n'y a plus de parti.
Ce qu'ils sont en train de nous offrir, évidemment.
Il y avait un parti de carriéristes. Différent que des carriéristes au Parti Socialiste. Aujourd'hui, je pense qu'avec le fait que en France, vous avez beaucoup de d'élus, maires, présidents de conseil général, etc., qui disent stop avec l'ANUPS, parce que l'ANUPS, c'était l'objectif, c'était de tuer les formations politiques. C'est ce qu'il a fait, d'ailleurs. Regardez aujourd'hui Europe Écologie Les Verts, on les entend plus. Le Parti communiste, un petit peu, parce que c'est les seuls qui ont été.
On les entend plus, Sandrine Rousseau, on l'entend partout. Hein.
Non, mais c'est des choses.
Non, c'est les personnes.
Non, c'est les personnes. Je parle des partis politiques, moi. Je dirais, Sandrine Rousseau, c'est normal, ils vont la prendre. C'est la seule qui.
Oh, mais elle rêve de reprendre les rênes de.
C'est la seule qui aboie aujourd'hui, mais. Non, je dis, non, mais les idées des écologistes.
J'ai compris, effectivement, vous avez raison.
Et donc, à partir de là, ils ont rejoint. L'ANUPS, l'objectif, c'est qu'on leur a dit, bah, écoutez, vous voulez pas mourir? Ok, vous allez pas mourir, mais par contre, vous allez mourir un petit peu. On va vous donner juste quelques députés, et puis vous allez vous taire, parce que c'est nous qui allons prendre le flambeau. D'accord? Par contre, moi, je pense qu'à l'intérieur du socialisme en France, on est en train de vivre, je dirais, la mort du Parti Socialiste, qui va devenir le Parti Social-Démocrate en France. Ça, on va vers ça. On va vers le
Parti Social-Démocrate.
Je dirais même pas le Parti Social-Démocrate, le Parti Démocrate, comme aux États-Unis. On est en train d'avoir le Parti.
Ce que voulait DSK, finalement.
Comme aux États-Unis, vous avez les démocrates et les républicains. Et donc, on va arriver vers ça, et vous allez voir que ça ne va pas s'arranger dimanche ou samedi lors de leur congrès au Parti Socialiste.
Donc, on va se retrouver avec des démocrates et des républicains.
Moi, je dis des démocrates, à mon avis. Après, les républicains, je ne sais pas, parce que il va y avoir aussi, je pense, avec Ciotti, Bertrand, Marine Le Pen, Marion Maréchal, tout ça, et le président du conseil régional, comment il s'appelle, pas Bardella.
Qui ça?
Celui qui veut se présenter à la présidentielle en 2027.
Ah oui.
Je vois très bien, mais ça va nous revenir
Philippe,
tout de suite.
Voilà.
Tout de suite.
Edouard Philippe.
Non, il parle pas d'Edouard Philippe. Il parle des républicains, mais ça va me revenir dans quelques secondes. Voilà. Je vois très bien de qui vous parlez. Celui dont on a parlé pendant longtemps.
Donc là aussi, il va y avoir une explosion.
Jacob.
Comment?
Non, c'est pas lui, vraiment.
Chez Républicain.
Laurent Wauquiez. Voilà, donc ça va être. Moi, je pense que le Parti Socialiste, ça y est, c'est fini.
Ah, c'est clair.
Vous l'avez tué, vous. C'est marrant parce que quand je vous écoute parler, vous avez considéré d'ores et déjà qu'il était mort.
Ah, bah.
C'est marrant de parler comme ça, non?
C'est logique. Aux élections présidentielles, déjà, ils ont une femme qui se présente.
1%.
1%, voilà. Donc.
Voilà. Moi, je pense qu'il faut qu'à un moment donné, il y a des choses.
Alors, c'est quoi? Alors, est-ce qu'il s'est enfoncé dans la crise, le Parti Socialiste? Qu'est-ce qu'il s'est enfoncé dans quoi, juste Gamal Abidine?
Le Parti Socialiste a été un travail extraordinaire de M. Macron. Rappelons tout de même que Borne est socialiste. Hein.
Vidé de sa substance.
Il a été vidé de sa substance. Il a été atomisé de l'intérieur par un homme qui était issu de ce parti, à savoir M. Macron, qui est un stratège, un fin stratège là-dessus. On ne peut pas lui retirer ses qualités. Macron, qui a quand même une assise électorale de 27% au premier tour. Il ne faut jamais oublier que c'est quelqu'un qui pèse en France, parce qu'il rassure un certain corps électoral. Et le Parti Socialiste a à la fois été siphonné par Macron, et en même temps, et c'est là où il y a eu un problème, il a commis des fautes graves de lèse-majesté. Je prends juste un exemple nous concernant. La base électorale, ils utilisent beaucoup les gens des quartiers populaires, l'immigration. C'est comme ça que Mitterrand a fait ses choux gras à l'époque, quand il a régularisé 200 000 personnes. Il disait, on est avec vous. Vous, les pauvres, les gueux et les gens de l'étranger. Et ce qui se passe, c'est qu'il a quand même soulevé une question, la déchéance de nationalité. Ça a fait des crispations dans les quartiers, parce qu'ils se sont dit, mais c'est nous qui ciblent aujourd'hui. C'est nous leurs ennemis, c'est un discours à la Le Pen. Et là, ils sont déscribilisés. Donc c'est pour ça que je dis, j'ai envie de dire simplement que le Parti Socialiste mérite sa mort, largement, parce qu'il n'a pas été à la hauteur. Et je pense qu'aujourd'hui, ceux qui incarnent le mieux, bon, il y a encore les vieux les vieux éléphants comme un certain.
Moi, je pense à Le Foll. Le Foll, ça.
Mais non, ils sont finis. Ils sont tous morts.
Le truc, c'est fini.
Même Monsieur Mélenchon, qui incarne totalement le leader de la NUPES, en l'occurrence pas de la NUPES, mais le leader de LFI, même lui est un classique du Parti Socialiste. 37 ans chez eux. Bah, lui doit disparaître. Et quand il va disparaître, il y aura un renouvellement de la classe politique. Mais ce qui manque en France, c'est pas un problème de base électorale. Elle existe. La gauche existe en France. La gauche populaire existe. Ce qui manque, c'est quelqu'un qui l'incarne. Et ce qui est triste, c'est que ceux qui ont incarné le mieux la gauche sont des gens d'extrême droite ou de droite. Mitterrand était d'extrême droite au début, puis il a migré vers la droite pour arriver vers la gauche. C'est que des gens qui ont. On prend par Hollande. Qui sait que Hollande est un fils de militaire? OAS, papa était d'OAS, qui était quand même de droite. Qui sait que Madame Ségolène Royal, ses parents militaires aussi, elle était éduquée à la baguette, était de droite. C'est vous dire que réellement, ce qui a incarné le Parti Socialiste, indépendamment d'un Rocard qui était le seul vrai socialiste, pour le coup, avec peut-être
Roland Michel Dumas. Rocard, exact.
Rocard et Dumas, c'était vraiment le courant le plus sain du Parti Socialiste. Le reste, non. C'est que des fils de bourgeois.
Aubry aussi.
Oui, Aubry, mais Aubry, il ne pouvait pas réussir. Il ne faut pas oublier un truc important, je le répète systématiquement, et je le dis aujourd'hui. Je passe un petit bonjour à une copine qui est en Belgique, une Marocaine, qui s'appelle Raja, puisqu'elle est féministe, donc c'est bien que je envoie un petit message pour dire que Martine Aubry est victime de ce qu'il y a en France et que les gens ne veulent pas accepter. C'est un machisme violent, limite misogyne. Les hommes français ne veulent pas d'une femme à la tête de l'État. C'est clair et net. Il n'y aura jamais de femme avant au moins 50.
Vous êtes convaincu de ça?
Certain.
Certain. Bon.
Je rejoins un peu
Ahmed Lawedge.
Je rejoins un peu son analyse.
Oui, non, mais surtout, est-ce qu'il est en train de s'effondrer dans une crise ou est-ce que tout simplement.
Non, mais en mettant Olivier Faure à la tête du Parti, c'était obligé. Qu'on parte, je dirais, enfin que le Parti Socialiste meure.
Oh, mais en même temps, le fait qu'il soit réélu, il sauve un peu la NUPES.
Ils sont réélus où ? Ils sont réélus parce que la NUPES, demain, ils ont été élus avec la NUPES. Vous mettez n'importe quel mulet,
ouais, c'est clair,
dans n'importe quelle circonscription, notamment dans les départements, dans certains. Moi, je vois par exemple en Seine-Saint-Denis, on a eu des parachutés. Il y en a eu 12 sur 12.
J'ai eu.
12 sur 12 des gens qu'on ne connaissait pas.
Beaucoup l'ont regretté ici sur cette antenne.
Je fais partie d'une ville de droite. Où le maire, c'est Bruno Béchiza. D'accord, c'est la droite-droite.
Oui, effectivement, oui.
Ok. Où vous avez une personne parachutée qui est arrivée sur la circonscription, qui a gagné. Et des gens du sud qui votaient à l'extrême droite dans les bureaux de vote, ils ont tous voté pour elle. Tous, la plupart. Donc, vous mettiez n'importe qui, ça c'était là. Mais ça va se passer aussi avec la NUPES, je suis d'accord. Bien parce sûr. Que Mélenchon, c'est en train de se passer là. Avec le départ de Katnas.
Ah bah Mélenchon,
c'était
là.
Lui qui devait être.
La fin de LFI peut-être.
C'est lui qui devait être le grand patron. C'est lui qui devait être le grand patron à la base.
Oui.
Je félicite, c'est le prochain sujet. Ça.
Voilà. et donc à partir de là, vous avez les autres éléphants qui sont comme Alexis Corbière, comme comment elle s'appelle la députée de Seine-Saint-Denis.
Que d'autres de mémoire.
Voilà. D'autres personnes qui veulent aussi prendre la tête de cette formation politique.
Eh bien, vous avez anticipé, on va parler d'Adrien Quatennens, justement. D'Adrien Quatennens et le fait qu'il soit revenu au sein de l'hémicycle. Mais surtout, ce qui nous intéresse, nous, vous savez, c'est qu'Adrien Quatennens, il est exclu. Désormais, c'est officiel du parti de gauche. Mais alors, la question qu'on se pose tous, franchement, et ça devient inquiétant et ça nous préoccupe, c'est Adrien Quatennens qui est député aujourd'hui. Est-ce qu'il ne doit pas tout simplement démissionner de son mandat? On doit se la poser cette question. Il ne peut pas venir comme ça au sein de l'hémicycle, comme s'il ne doit rien n'était.
Si lui doit démissionner, Ahmed Lawedge. Si lui doit démissionner, comment il s'appelle, le ministre de l'Intérieur doit aussi démissionner avec les casseroles qu'il a. Non, je crois qu'à un moment donné, moi je comprends que.
Mais c'est normal qu'il soit exclu du parti de gauche?
Moi, c'est normal,
vous qui êtes de gauche?
Moi, attendez. Moi, à un moment donné, je ne vais pas dire s'il est exclu ou pas exclu.
Mais il est exclu.
Il y a
là.
Une décision de justice. Enfin, il s'est en cours, je crois.
Il y a une décision.
Mais là, il est exclu du parti de gauche.
Voilà. Donc, à partir de là, c'est à lui, en son âme et conscience, par rapport aux électeurs qui l'ont mis à ce poste de député, de dire s'il doit ou pas, ou moi je serai lui, qu'est-ce que je ferais? Si vraiment je pense que c'est les électeurs qui m'ont mis à cette place-là, c'est de dire ok, je démissionne et on fait une réélection.
Je remets mon mandat en jeu.
Voilà. À partir de là, si les électeurs de cette circonscription le mettent et le font gagner, je veux dire, à un moment donné, on tourne la page, parce qu'avec toujours lui, il a fait ça. Mais si, il y en a d'autres qu'on fait pire. Pédophilie, viol, etc., 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 etc.
C'est vrai.
Lui, je veux dire, ce qui s'est passé, malheureusement, bon, c'est un homme politique, ça arrive, il y a des couples qui se disputent. C'est vrai que des fois, il y a peut-être une claque qui part. Oui, c'est vrai, ça existe en France. Il n'y a pas que Cadré et Cazenas. Hein. Vous en avez plein comme ça.
Oh, mais il est censé incarner l'exemplarité. Surtout qu'il a participé à des commissions
j'entends, mais je dis par rapport à la proportion de ce qu'ont fait d'autres personnes, je pense qu'à un moment donné, et c'est pas pour le défendre, moi je pense qu'il doit remettre son mandat en jeu. C'est-à-dire que c'est les électeurs qui l'ont élu. Ils l'ont élu par rapport à un programme, par rapport à la force qu'il a pour représenter la France à l'Assemblée nationale, et bien qu'il remette son mandat en jeu. S'il est réélu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens veulent qu'Adrien Quatennens soit député de la France.
Donc pour vous, il doit rester à l'Assemblée ?
Moi, je pense que s'il y en a un qui doit le sortir, c'est les citoyens.
C'est les citoyens. Gamal Abina, alors vous dites quoi ?
Ben moi, je dis simplement...
D'abord, le fait qu'il soit exclu du parti de gauche.
Alors voilà, je vais prendre une chose par chose. J'aime bien l'idée qu'effectivement, il remette son mandat en jeu pour vérifier si les électeurs lui font
pas
confiance.
Pas mal.
Ça, c'est pas une mauvaise idée. Après, j'ai envie de dire simplement, ça me rappelle un peu la fois Biden qui commençait à dire de Trump que c'était un salaud parce qu'il avait caché des documents, c'est un irresponsable. Et finalement, il se fait prendre la main dans le sac. Il a fait la même chose. Ben là, c'est pareil pour Quatennens, c'est que le parti qu'il incarne, la partie dans laquelle il est, qui a été fondé, c'est une des figures de peau quand même. On le connaît avec sa cheveux de rousse, une grande gueule et tout.
Même.
Comment ?
Fils spirituel aussi de
Fils spirituel, absolument. Il le revendique d'ailleurs. Enfin, il revendique sa paternité et vice-versa. Eh bien, le problème de Quatennens, c'est que. L'affaire privée ne m'intéressait pas en vérité. Il y a un procès qui a eu lieu, il a été condamné, effectivement. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut donner des leçons aux gens quand soi-même on n'est pas irréprochable ? En l'occurrence, ils ont joué les curés, alors que ça n'a rien à voir avec le monde politique, hein, c'est des affaires privées. Ils ont dit nous allons faire en sorte qu'il y ait une certaine éthique dans la politique et faire en sorte que les femmes soient protégées de ce genre de violence. Ils avaient raison et il l'a signé aussi. Malheureusement pour lui, il a signé un truc dans lequel il était en contradiction puisqu'il sait qu'il a déliré. S'il avait dit dès le départ, j'ai fauté moi-même, c'est pour ça que je vais me battre, on aurait compris. C'est pas le cas. Donc le problème de ce parti, c'est qu'il a donné des leçons à tout le monde de comportement. Alors c'est pas de la politique, je suis désolé. Hein. Les lois sont faites pour ça. On n'est pas là pour s'autoflageller. Et que finalement, il a été pris la main dans le sac. Moi, je dirais simplement, c'est qu'un député n'a pas vocation à régler ses comptes à l'Assemblée ni de la vocation à se justifier à l'Assemblée. Ça, c'est la justice qui fait le travail. Un député est là pour faire des lois et pour protéger les gens quand les lois sont votées.
Oui, mais il est censé incarner l'exemplarité.
L'exemplarité de son parti. Ben c'est pas les autres partis ne demandent
surtout
pas
que
ça.
Lorsque, évidemment, on a participé à plusieurs commissions
voilà.
sur ce sujet-là.
Donc, son parti s'est vanté de cela. Il a été dans le parti. Donc, sa faute, c'est d'avoir accepté, soit de faire amende honorable, ça aurait été simple, ou de changer de parti. Mais il faut être cohérent. Quand un parti revendique ça comme si c'était une sorte de grand prince comme ça qui portait des valeurs extraordinaires qui doivent être universalisées, les autres partis disent pas ça. Hein. C'est pour ça que je dirais que, quand il s'appelle que celui qui a été attrapé aussi à Malensac, entre guillemets, ça a été le ministre de l'Intérieur, par exemple, il a eu des problèmes comme ça.
Darmanin.
Mais il est moins inquiet parce que son parti dit pas ça. Ils ne sont pas arrivés avec des leçons à donner à tous. Donc c'est la question qui se pose. Est-ce qu'ils auraient dû mieux fait de lever le pied sur les donneurs de leçons ? Ils ne l'ont pas fait, donc ils ont deux choix. Soit ils l'excluent, c'est le cas et c'est logique, c'est cohérent, puisque son parti a dit on ne peut pas garder des gens comme ça, c'est normal. Et en même temps, les électeurs ont voté pour lui. Est-ce qu'ils doivent être sanctionnés alors qu'ils lui ont fait confiance ? Je pense que la remise en jeu de son mandat serait la solution la plus adaptée. Ça lui donnerait une légitimité.
Ce que dit Ahmed Lawadj.
Tout à fait. Et ça lui donnerait une vraie légitimité à ce monsieur. Et ça permettrait d'effacer cette erreur, si tant est qu'on puisse l'effacer.
Le fait qu'il soit exclu du parti de gauche, c'est, vous trouvez ça évidemment. Justifié, légitime ?
Bah, au vu des postures de son parti, oui. Pour ma part, je suis contre. Mais bon, comme ils sont dans un parti qui ont revendiqué de jouer les chevaliers blancs, effectivement, c'est logique. Mais à côté de ça, je trouve que c'est pas de la vraie politique. On est vraiment dans des affaires privées qu'on veut mettre en avant, qu'on veut jeter en pâture. Ça peut arriver à n'importe qui dérape et on le sait. Est-ce que c'est bien, pas bien ? Bah, évidemment que c'est pas bien. Mais quoi qu'il en soit, je pense que les règlements de compte, quand c'est des affaires privées, me paraissent un peu sales parce que tout le monde a des choses à se rapprocher.
Un peu sale, tout le monde a des choses à se reprocher. Bon, écoutez, 0153 48 3000, les auditeurs s'ils veulent réagir. Dites-moi, mon cher Ahmed Lawadj, avant de marquer une pause, justement, vous dites, et en tout cas, vous défendez l'idée de que les électeurs doivent décider pour Adrien Quatennens. C'est effectivement, ça tient, c'est possible. Ça tient la route. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il peut continuer d'incarner LFI, la France Insoumise, parce qu'il est toujours adhérent, il est toujours militant de la France Insoumise.
Ça, c'est pas à moi de le dire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si vous adhérez.
Mais il représente, il est député.
S'il adhérait, c'est qu'il y a un projet, il y a des statuts. C'est à eux de voir si ils doivent. Pourquoi ils l'ont exclu voilà, c'est quand même quelqu'un, c'était quand même une figure hein, de LFI, c'est quand même eux, c'est quand même un des personnages politiques de LFI qui était le plus à même, on va dire,
de prendre les rênes,
de prendre, je dirais, le parti, parce que c'est quelqu'un qui était posé, qui avait un esprit, je dirais, qui pouvait débattre d'une manière assez forte avec les personnes avec lesquelles il était opposé. Voilà, c'est quelqu'un qui connaissait ses dossiers, et je pense qu'à un moment donné, ben voilà, malheureusement, la paire de claques qu'il a fait, ben ça l'a tué, et c'est aussi peut-être ses amis.
Est-ce que c'est pas aussi la fin de LFI?
C'est aussi
c'est ça aussi qu'on se pose là.
Non, mais c'est aussi ses amis qui l'ont tué. Je veux dire, à un moment donné, la députée de Seine-Saint-Denis, elle a pas été de main morte. Sandrine Rousseau, elle n'a pas été de main morte.
Elle a assassiné.
Les deux, la droite, on ne l'a pas entendu. Hein. Les gens, c'est eux qui sont montés au créneau, bam, ils l'ont tapé. Donc, à un moment donné, voilà, c'est à LFI de prendre, j'ai pas moi.
Moi c'est bien parce qu'il y a une posture curée qui commence à m'énerver. Ce côté de l'ordre de son, ce côté, il a péché. Vraiment, on est dans le. Pour moi, la morale n'a pas sa place en politique, puisque de toute façon, la politique est amorale. Ce qui a une place en politique, c'est la justice. Et la justice, on doit être juste en politique. Mais si on commence à mettre des valeurs morales, on va dire, il a mis une claque un jour, il a insulté sa femme, et il mérite aussi la tôle. Sa femme lui a mis, on peut aller dans la surenchère, dans la bêtise. Ça, c'est des affaires qui auraient dû rester sous sa
prime. Et puis, dans un couple, on ne sait pas. Peut-être l'insulter, peut-être. Je sais pas. On n'était pas dedans, je crois, de sortir un truc comme ça. Moi, je ne sais pas. Je pense que. Si on sort ce genre d'affaires en politique, c'est qu'en France, la politique, c'est devenu très, 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 très bas.
Puis bon,
c'est pas ce que veulent les Français. Les Français,
ils l'ont exprimé sous la forme d'un sondage. Il y a un divorce avec la chose politique. Ouais, bah oui, je vous l'apprends pas. Allez, 19h14, on marque la dernière pause pub et on se retrouve pour la dernière ligne droite ici aux informés. 0153 48 3000, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
19h20, dernière ligne droite, Les Informés, vous le savez, c'est aussi avec Ahmed Laouedj, le patron du PRG, vice-président national donc du PRG, mais également aussi Gamal Abina, le porte-parole des voix...
Mouvement des droits...
Des mouvements des droits civiques. C'est facile pourtant, non? Mouvement des droits civiques.
C'est pas
l'UMRC. Hein. MDC, MDC, c'est facile franchement. Alors est-ce qu'il est compliqué? Mouvement des droits civiques. C'est parti.
Les informés. Les informés. Le face-à-face.
Le face-à-face continue, il nous reste à peine 8 minutes, chers amis. Nous allons parler évidemment de la consommation. Vous savez quoi, ça prévient, et on va parler aussi d'inflation. Un éco-watt de l'eau. Vous avez entendu parler de ça, chers amis? Parce qu'il y a un problème avec, évidemment... Il faut réduire la consommation parce qu'on va de plus en plus vers une sécheresse. Un plan anti-sécheresse, le ministre de la Transition écologique annonce des mesures pour réduire la consommation d'eau. Autant dire qu'il y a un plan anti-sécheresse. Donc le gouvernement, il s'adresse à qui? Il s'adresse aux particuliers, il s'adresse aux collectivités, il s'adresse également aussi, eh bien, tout simplement aux entreprises et aux agriculteurs pour leur dire que on va prendre des mesures. Il faut qu'on consomme 150 litres d'eau par personne et jour. Ça, c'est le ministre qui le dit. Et il dit surtout... Je me dirige vers un éco-watt de l'eau. Est-ce que c'est un plan, une mesure qui est nécessaire, Gamal Abina, pour évidemment réduire l'eau? Parce que, on s'inquiète.
L'inquiétude est légitime parce qu'on se rend bien compte qu'on a un hiver qui est extrêmement doux, malgré tout. Hein. On a quelques jours de froid, mais c'est une quinzaine en décembre maintenant. Donc c'est très très doux, ça repart d'ailleurs, les températures montent demain. Et on se rend bien compte que si l'hiver est doux, ça va annoncer un été extrêmement dur, qui était déjà un été difficile d'ailleurs été. Donc l'augmentation des températures va faire que les nappes phréatiques ne vont pas se reconstituer rapidement. Il n'y a pas une neige, donc pas assez d'eau, pas une grande pluviométrie.
Non mais là il s'agit quand même de diminuer de 10% le volume d'eau prélevé. Hein.
Mais c'est le problème, c'est qu'ils prennent le problème
c'est à l'envers.
La problématique de l'eau en France se pose pas parce que c'est un pays qui est très irrigué. Il y a 7 grands fleuves, donc il faut gérer l'eau. Il faut bien la gérer. La problématique se pose dans les pays sahéliens, par exemple, les pays du Sud. Effectivement, ça deviendra extrêmement tendu, voire mortel. Mais en France, c'est un pays de confort. C'est un pays qui est dans un climat tempéré. Donc, ils sont pas inquiets. Ils sont en train d'anticiper un mouvement qu'ils voient venir pas sur l'année prochaine, mais sur les 10 ou 15
ans. Dans les 10, 15 ans, voilà, exactement.
Donc, ils veulent nous habituer à des restrictions d'eau comme ils ont voulu nous habituer à des restrictions d'énergie à la suite de la crise ukrainienne. Donc, tout ça, c'est des anticipations extrêmement anxiogènes. Encore une fois, c'est mal amené, mal vu, et ça donne le sentiment que nous serions responsables d'une surconsommation ou d'eau ou d'énergie. Donc là, on a un problème en termes d'image, en termes de gestion, en termes de communication.
Ahmed Laouedj, avant de parler du pouvoir d'achat.
Je suis avec notre débatteur de ce soir. Ce que je peux dire, moi, c'est.
Parce que là, ça concerne notre quotidien aussi. On parle de douche, on parle de sanitaire, de lave-linge, de tout ça. Hein.
Ouais, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que c'est vrai que la France, elle est toujours un peu en retard par rapport à plein de choses.
Ah.
On a vu les éoliennes, on a vu l'énergie, comment gérer les... Aujourd'hui, si on a un manque d'énergie, c'est parce que les centrales nucléaires sont dans un état pitoyable. C'est aussi pour ça.
Ouais.
Là, aujourd'hui, on récolte que 1% des eaux usées en France.
Ouais.
En Israël, c'est 100%. D'accord. Aujourd'hui, c'est vrai que l'eau, ça va devenir plus cher que l'or et le pétrole. Ça, je le dis, mais pas dans les 10 ans. Dans les 50 ans.
Mais dans les 50 ans, il n'y aura plus d'eau, vous le savez, ça.
C'est pour ça qu'on nous prépare.
Je ne vous l'apprends pas.
Mais ça veut dire qu'il faut.
Il y aura très peu d'eau, y compris en Afrique.
Non, mais ça veut dire qu'il faut un plan. Il y a des réserves d'eau, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, en France, si on parle de la France.
Il y a la sécheresse qui se multiplie.
On attend toujours le dernier moment.
Changement climatique.
Pour pouvoir trouver des solutions. Voilà. C'est vrai qu'on use à peu près 150 litres d'eau par jour, par personne. Ça, c'est clair.
C'est vrai. C'est, voilà. 149, précisément.
Mais voilà, moi, je pense qu'il faut. Il y a peut-être une pédagogie à voir. Il y a peut-être aussi pas laisser l'eau couler. C'est aussi, à un moment donné, quand vous traversez les rues du département de la Seine-Saint-Denis, où vous avez les pompes, je dirais, de pompiers qui sont ouvertes et qui l'eau coule et qu'il n'y a personne. Voilà. Il y a tout ça qui doit être remis en cause et doit être remis en place par... voilà. Et c'est vrai que si on doit faire en sorte d'aller plus loin dans les eaux usées, ça serait bien.
Autre sujet qui nous préoccupe, vous savez ce qui nous préoccupe dans notre quotidien. Dites-moi, Gamal Abina.
Il n'y a que 3% d'eau douce sur Terre. Il faut le savoir, 3%. Donc c'est une goutte d'eau pour le coup, c'est un jeu de mots à deux balles. Mais 3% d'eau douce alors qu'on pourrait parfaitement la capitaliser en faisant des réserves, en la stockant, en rationalisant.
Oui, Gamal Abina, il y a le changement climatique. Il y a la sécheresse.
Oui, mais il pleut toujours.
On a vécu des incendies cet été quand même.
Il pleut.
Oui, mais... Vous l'avez dit vous-même, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, et ben l'eau va être amenée à disparaître.
Pas disparaître, elle va être moins abondante.
Moins abondante.
Mais peut-être mieux gérée. C'est vrai que le fait de récupérer les eaux usées, par exemple, c'est quelque chose d'essentiel, à mon sens. Ce qu'on appelle le principe.
Par exemple, le premier pays
de l'économie circulaire, c'est
l'Afrique. L'Afrique.
Je reprends encore Israël avec le changement, enfin, le par rapport au l'eau salée des
salamandres de mer.
Le Maroc, ils sont tous en train de le faire.
Pas faux.
Voilà, c'est.
Messieurs, juste dernier sujet, on a 5 minutes pour le traiter, 4 minutes à peine, j'aimerais vraiment qu'on en parle, c'est l'inflation. C'est un sujet aussi que vous maîtrisez, parce qu'on va être heurté là, de plus en plus, vous savez quoi, un pouvoir d'achat, et puis surtout le panier de courses, et puis l'inflation qui va être galopante, c'est-à-dire on va se retrouver à de plus en plus de hausses, des prix qui grimpent de plus en plus aussi notamment, et notre panier va exploser. Gamal Abina, est-ce que tout ça, ça ne va pas se transformer en des révoltes de plus en plus ?
Alors effectivement, là où on a une révolte majeure, c'est comme pour la Révolution française, c'est quand les gens ne mangeaient plus. Quand le peuple demande du pain, on parle souvent de la question du pain,
c'est
on parle
faux.
Beaucoup de boulanger ces derniers temps. Lorsque le peuple demande du pain, c'est que quand on dit ventre vide n'a pas d'oreille, ça devient violent. C'est-à-dire si quelqu'un commence à avoir mal au ventre, il ne réfléchit plus, il s'exprime par la violence physique.
C'est ça.
Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la courbe inflationniste ne fait que galoper, elle est grimpante. Et il y a une inflation, il y a deux inflations différentes.
C'est
il y a
terrible.
L'inflation sur les grands, la grande économie, immobilier, voiture, camion, ce que vous voulez, et la petite, enfin l'inflation sur la petite économie plutôt, qui est le panier moyen de la ménagère. Et en l'occurrence, moi, ma crainte, elle va en direction des plus fragiles,
des plus démunis,
ceux qui n'ont pas de revenus ou peu de revenus ou le RSA, et qui ont une inflation qui grignote chaque mois 10%. C'est vous dire que réellement, au terme, dans un an par exemple, on sera à 100% d'augmentation. Donc il faut se méfier de cela parce que si l'inflation touche les denrées alimentaires et l'État n'a toujours pas pris ses responsabilités. Contrôler les prix, stopper l'augmentation des prix sur les denrées alimentaires, on va en direction.
Pourquoi elle le fait pas?
C'est une lâcheté qui est dogmatique.
Mais ça suffit pas, ça.
Non, la lâcheté dogmatique, c'est quoi? J'ai discuté avec des gens du gouvernement. En l'occurrence, je parle des représentants à petit niveau. Et ils disent toujours la même chose. Non, on n'est pas chez les communistes. C'est un argument bidon, hein. Parce que vous répondez à cela. De Gaulle l'a fait en 46 avec le Conseil national de la résistance, le CNR. Donc si De Gaulle, un homme de droite, l'a fait, c'est qu'il y a urgence dans la demeure. On parle de guerre économique. C'est une guerre lourde qui existe en Europe. Et ceux qui souffrent le plus, c'est les plus faibles.
Ahmed Lawedj.
Oui, non, mais moi, je constate dans les
Bah là, on est dans ça sonne rouge, là.
Les
voyants sont rouges. Hein.
Vous avez même des gens aujourd'hui qui vont en caisse qui n'arrivent pas à payer.
Tout à fait.
Et ça, moi, je l'ai vu. J'ai vu aussi des classes moyennes aller faire leurs courses n'achetant pas ce qu'ils achetaient auparavant.
Bah oui.
C'est-à-dire que,
c'est pour ça que je vous dis ça. On parlait avec les auditeurs tout à l'heure du grec.
Ils achètent.
Qui passait de 7,50 à 10 euros.
Il y en a qui, avant, qu'ils achetaient pour 15 jours. Maintenant, ils achètent sur.
C'est énorme.
Ils achètent sur 3 jours. Mais on en arrive là.
Oui, c'est clair.
Et aujourd'hui, l'inflation est galopante. Mais il n'y a pas que ça. Parce qu'ils n'ont pas que ça à payer. Ils ont le téléphone. Ils ont le gaz, ils ont l'électricité,
oui, avec l'énergie
ils ont explosé. Le carburant, ils ont les assurances, les mutuelles qui ont augmenté. Non mais c'est pour ça.
Ça spécule à plein régime, je suis d'accord.
Voilà, je pense qu'aujourd'hui il y a
ça spécule à plein régime.
Très 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 critique. Et je vous dis, mélangez ça à la retraite, ça va faire une explosion dans ce pays.
Bah, je crois que là, elle s'est exprimée, non ?
Oui, clairement.
Mardi prochain, elle s'exprime aussi.
Tous dans la rue.
Merci Ahmed Lawadj, le patron du PRG, mais également le vice-président national du PRG. Merci infiniment, au plaisir. Merci à Gamal Abina, le porte-parole du mouvement donc, des droits civiques. Merci à vous.
Merci encore. Merci Adil.
Je vous exprès. Exprès. Hein.
Machal.
Merci à la réalisation. C'était Anthony et aux nombreux auditeurs. À vous, justement, au 0153 48 3000. Bilal Nenman, les prochains rendez-vous qui vous attendent sur l'antenne de BAFM. Bilal Nenman de 20h à 21h. Vanessa à 21h jusqu'à 23h. Quant à moi, évidemment, demain matin aussi, Kim et Mona. Quant à moi, je vous retrouve. Qu'est-ce qui se passe, Gamal Abina ?
2h, elle fait. Waouh.
Ouais.
Vanessa, c'est du lourd quand même. 2h, c'est
fini. Hein. Oh. C'est confidence, hein.
Oui, mais toute seule, hein, quand même, c'est pas...
Confidence, n'est-ce pas ?
N'est-ce pas ? C'est aussi sportif au niveau du standard et de la réalisation, je peux confirmer.
Ça, j'imagine, ça. Ouais, là, ça bosse, par contre.
Ouais.
À fond.
Bah, ça bosse ici aussi, hein.
C'est des deux côtés.
Vous avez aussi
partout, ça bosse, hein.
TV, là, enfin, pas, c'est News qui vient, comment ça s'appelle ?
Karim Zeribi.
Il est aussi sur Beurre FM, moi,
dimanche. Vendredi matin. Ouais. Tous les vendredis matin, de 9h à...
Non,
10h. De 10h à midi, c'est ça ? De 10h à midi.
À la place des petites annonces,
voilà,
le vendredi.
De 10h à midi. Voilà, tout simplement. Mais c'est une bonne émission. Je vous invite à l'écouter. Allez, 10h30, on rend l'antenne. À demain, avec autant de plaisir, mais surtout.
19h30, pas 10h30. C'est un peu.
19h30, j'ai dit.
Non, t'as dit 10h30.
10h30, ça arrive. On est sur les heures.
C'est comme moi avec les baskets.
À demain, avec autant de plaisir. On ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.